Exposition biblique, chapitre 4. Les apôtres, à qui a été confié le mystère de Christ. Serviteurs de Christ et dispensateurs des mystères, les ouvriers de Dieu sont-ils ceux à qui sont confiés et qui prêchent les mystères de Dieu? Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 5. Dans la Bible, les ouvriers de Dieu sont décrits comme ceux à qui est confié et qui prêchent le mystère de l'Évangile de Dieu. L'apôtre Paul a exprimé ce fait très clairement. Dans 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 1, il dit « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. » Ici, le mystère de Dieu ne signifie pas une quelconque connaissance mystique qui aurait été cachée à l'homme, mais désigne la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit manifestée par Jésus-Christ. Le mystère du salut dont parle la Bible déclare que Jésus a reçu le transfert des péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean, a subi le jugement du péché sur la croix, est ressuscité des morts et est maintenant devenu le Sauveur pour nous qui croyons. À l'époque de l'Ancien Testament, il avait été prophétisé qu'il serait envoyé comme le Messie, mais à l'époque du Nouveau Testament, il est apparu en tant que Jésus, qui a reçu le transfert des péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean, a été crucifié sur la croix et est ressuscité des morts. En expliquant ce mystère dans Éphésiens chapitre 3, l'apôtre Paul déclare que Dieu a maintenant révélé aux apôtres la dispensation du salut qui n'avait pas été pleinement faite connaître aux hommes des générations précédentes. C'est-à-dire que c'était la parole selon laquelle Dieu a établi des ouvriers à qui a été confiée la parole de l'Évangile afin de faire connaître son plan de salut aux hommes. Par conséquent, les ouvriers de Dieu ne sont pas des personnes qui créent de nouvelles vérités. Mais ce sont ceux qui ont été chargés de prêcher la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit du salut que Dieu a déjà accompli. Cela signifie qu'ils sont des messagers qui transmettent, par la foi, la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que Dieu leur a confié. Ainsi, Paul a qualifié les apôtres, y compris lui-même, de dispensateurs. Un dispensateur est une personne qui gère les biens du Maître, et c'est quelqu'un qui a la responsabilité de bien les gérer, et de les transmettre selon la volonté du maître, plutôt que de s'approprier ses biens. De plus, Paul continue et dit « Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 2. La chose la plus importante pour les ouvriers à qui est confié le mystère de Dieu n'est pas la capacité ou l'honneur, mais un cœur fidèle. Prêcher la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit confié par Dieu exactement telle qu'elle est, sans l'altérer, est la mission la plus importante de l'ouvrier. En ce sens, les ouvriers de Dieu jouent les rôles suivants. Premièrement, ils prêchent aux gens l'Évangile de l'eau et de l'Esprit du salut que Dieu a accompli. Deuxièmement, ils n'enseignent pas la parole de l'Évangile de Dieu en la mélangeant avec d'autres doctrines. Troisièmement, ils doivent accomplir fidèlement avec foi le ministère confié par Dieu. Quatrièmement, ils n'attirent pas les gens à eux-mêmes, mais les guident vers Jésus-Christ. En fin de compte, les ouvriers de Dieu ne sont pas des personnes qui prêchent leur propre message, mais ce sont des dispensateurs qui prêchent au monde entier le mystère du salut confié par Dieu, c'est-à-dire l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Leur rôle n'est pas de régner sur les gens, mais ce sont ceux qui font l'œuvre d'aider les âmes des gens à obtenir le salut de leurs péchés en témoignant fidèlement de la vérité confiée par Dieu. Par conséquent, plutôt que d'exalter les ouvriers de Dieu, la Bible parle de la mission évangélique et de la fidélité qui leur sont confiées. Paul se définit lui-même ainsi qu'Apollos de la manière suivante, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. L'apôtre est un serviteur de Christ et un dispensateur à qui est confié le mystère de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le mystère de Dieu dont il était question ici désigne la parole de vérité selon laquelle Jésus a reçu le baptême de Jean, a reçu le transfert des péchés du monde, a été pendu sur la croix et a versé son sang. et ressuscité des morts, et a donné le salut à ceux qui croient. Et c'est le fait que la vérité de l'eau et de l'esprit à laquelle ils croient et qu'ils prêchent est la parole de Dieu. Sur la base d'une telle parole, Paul refuse fermement d'être évalué selon des critères humains. « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. » Parce que la véritable évaluation de l'évangile de l'eau et de l'esprit est une autorité qui appartient exclusivement au Seigneur et non à l'homme. Ceux qui font l'œuvre de Dieu ne doivent-ils pas s'abstenir de s'écarter de la parole de Dieu et d'affirmer leurs propres opinions? C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? 1 Épître aux Corinthiens chapitre 4, versets 6 à 7. Ceux qui font l'œuvre de Dieu doivent témoigner clairement de la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit manifestée dans la parole de Dieu. Et ils ne doivent pas prêcher en ajoutant leurs propres pensées au-delà de la parole écrite de l'eau et de l'esprit. Parce que le ministère de l'Église et de l'Évangile est la vérité bâtie sur la parole de Dieu et non sur la sagesse ou la philosophie humaine. L'apôtre Paul énonce clairement le principe de « à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit » dans 1 Épître aux Corinthiens chapitre 4 verset 6. Cela signifie que ceux qui sont devenus les serviteurs de Dieu ne doivent pas essayer de diriger l'Église avec leurs propres pensées ou affirmations, mais doivent exercer leur ministère dans le cadre de la parole de Dieu écrite dans la Bible. Si une personne ne travaille pas en faisant de la parole de Dieu la norme, mais travaille en mettant ses propres pensées au premier plan, l'Église s'écartera progressivement du centre de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. La parole de Dieu devient la norme de l'Église de Dieu et les ouvriers de Dieu doivent se vivre comme des dispensateurs à qui cette parole a été confiée. Un dispensateur est une personne qui transmet la volonté du Maître et non une personne qui transmet sa propre volonté. Par conséquent, les ouvriers de Dieu ne doivent pas être des personnes qui prêchent leurs propres pensées ou philosophies, mais des personnes qui prêchent la foi, qui croient en la parole de Dieu. C'est parce que les pensées humaines peuvent être fausses à tout moment, mais la parole de Dieu est une vérité immuable. Parce que la sagesse humaine change selon les époques et les circonstances, mais la parole de Dieu devient le point de repère éternel. Ainsi, si un ministre place ses propres pensées au centre, son ministère s'écoulera d'une manière centrée sur l'homme. Mais s'il place la parole de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit de Dieu au centre, son ministère accomplira toujours le salut qui se réalise dans la volonté de Dieu. Jésus a également mis en garde contre les traditions ou les pensées humaines qui précèdent de la parole de Dieu. Dans Marc chapitre 7, Jésus a réprimandé les gens pour avoir abandonné les commandements de Dieu et gardé les traditions humaines. C'est parce que la religion et la tradition ne peuvent pas précéder la parole de Dieu. Par conséquent, la foi la plus importante pour une personne qui fait l'œuvre de Dieu est la foi qui croit en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, qui est la vérité du salut où le Seigneur a reçu le transfert des péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean et a subi le jugement du péché sur la croix pour nous. L'ouvrier de Dieu n'est pas une personne qui révèle sa propre sagesse, mais une personne qui transmet fidèlement la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit prononcée par Dieu. Parce que les pensées qui s'éloignent de la parole de Dieu, aussi sages qu'elles puissent paraître, ne sont finalement rien d'autre que des opinions humaines, tandis que la parole de Dieu et la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit sont la vérité de vie qui sauve les âmes des gens. En fin de compte, ceux qui font l'œuvre de Dieu ne doivent pas être des personnes qui affirment leurs propres pensées, mais des personnes qui servent la parole de Dieu comme norme de foi et exercent leur ministère dans le cadre de cette parole. En faisant cela, l'Église sera fermement établie sur la vérité de l'Évangile de Dieu et non sur la sagesse humaine. L'effacement des péchés n'a pas été accompli par notre propre capacité. La foi qui croit en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit n'est pas une doctrine religieuse que nous avons créée nous-mêmes. Tous les péchés ont été transférés par le baptême que Jésus a reçu de Jean et Jésus a subi le jugement du péché sur la croix et ressuscité des morts et est devenu le Sauveur qui a donné le salut à ceux qui croient. Par conséquent, ce n'est qu'en croyant en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que nous avons pu devenir ceux qui ont reçu l'effacement des péchés dans nos cœurs. Un enfant spirituellement jeune ne pense pas à la volonté de Dieu. Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ. Mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Première épître aux Corinthiens chapitre 4, versets 8 à 13. On peut dire qu'un enfant spirituellement jeune essaie d'atteindre son propre but, mais une personne spirituellement mature est celle qui vit en cherchant par la foi à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse. Paul parle avec une ironie mordante. Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous, vous avez commencé à régner. Ce n'est pas un compliment, mais une réprimande. Paul réprimande l'attitude de ceux qui agissent comme s'ils avaient déjà atteint leur destination simplement parce qu'ils possèdent que l'Évangile. D'un autre côté, la réalité des apôtres était complètement différente. Ils étaient dans la position des insensés, des faibles et des humbles. Ils étaient à calomnier, persécutés et sans abri. Cependant, ce n'était pas une position d'échec. C'est précisément la position de la preuve du salut qui suit toujours chaque fois que l'évangile de l'eau et de l'esprit est proclamé dans l'histoire humaine. Cet évangile de l'eau et de l'esprit n'élève pas les humains au-dessus de Jésus ni ne promet le succès religieux. Et ce sont ceux qui vivent en regardant vers le Seigneur avec foi, amour et espérance. Quelle est la foi qui obéit à un Père spirituel ? Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises ? Première épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 14 à 17. Dans la Bible, l'apôtre Paul a souvent expliqué sa relation avec les saints qu'il a établie en prêchant l'Évangile comme une relation entre un père et ses enfants. Dans Première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 15, Paul dit « Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ. » Par l'Évangile. Le Père spirituel mentionné ici ne désigne pas un être qui domine sur les gens, mais quelqu'un qui prêche l'Évangile et fait des gens des êtres spirituels. La foi qui obéit à un Père spirituel commence d'abord par un cœur humble pour apprendre au sein de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est une attitude consistant à apprendre la parole de Dieu par l'intermédiaire d'une personne qui a marché la première sur le chemin de la foi. Et à essayer d'établir correctement sa propre foi grâce à cet enseignement. Cette obéissance de la foi n'est pas une attitude consistant à exalter une personne, mais une attitude consistant à reconnaître l'ordre spirituel établi par Dieu. De plus, cette obéissance de la foi doit être une obéissance accomplie au sein de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et de la parole de Dieu. La Bible ne considère aucun être humain comme une entité dotée d'une autorité absolue. Un leader spirituel est aussi, en fin de compte, un dispensateur à qui la parole de Dieu a été confiée devant Dieu. Par conséquent, la véritable obéissance ne consiste pas à suivre les pensées personnelles d'une personne, mais à croire et à suivre la parole de Dieu et l'évangile de l'eau et de l'esprit que cette personne prêche. Hébreux chapitre 13, verset 17 dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte ». Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. L'expression « car ils veillent sur vos âmes » signifie qu'ils sont des personnes qui restent éveillées pour les âmes des saints et qui assument la responsabilité devant Dieu. En d'autres termes, obéir à un leader spirituel dans l'Église ne consiste pas à exalter cette personne, mais c'est pour l'ordre et le bénéfice spirituel de l'Église. Cependant, l'obéissance dont parle la Bible ne peut jamais précéder la parole de Dieu. Si l'enseignement d'un leader va à l'encontre de la parole de Dieu, le saint ne doit pas suivre aveuglément, mais faire preuve de discernement en se basant sur la parole de Dieu. Un véritable leader spirituel est aussi une personne qui guide les gens à obéir à la parole de Dieu plutôt que d'exiger l'obéissance à lui-même. En fin de compte, la foi qui obéit à un père spirituel a les significations suivantes. Premièrement, c'est une foi qui respecte le leader spirituel qui a prêché la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Deuxièmement, c'est une attitude humble pour apprendre la parole de Dieu. Troisièmement, c'est une foi qui reconnaît l'ordre spirituel établi au sein de l'Église de Dieu. Quatrièmement, c'est un croyant qui a la foi qui désire que la volonté de Dieu s'accomplisse au sein de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi qui obéit à un père spirituel n'est pas une foi qui vénère une personne, mais peut être appelée une humble attitude de foi, essayant d'apprendre et de grandir grâce à l'enseignement d'un leader spirituel au sein de la parole de Dieu et de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Paul l'écrit. L'évangile mentionné ici n'est pas un message qui met l'accent uniquement sur la croix. Cet évangile est pour celui qui croit en Jésus-Christ comme son sauveur, qui a reçu le transfert des péchés du monde par le ministère du baptême que Jésus a reçu de Jean, a subi le jugement du péché sur la croix et est ressuscité des morts. C'est la raison pour laquelle Paul a envoyé Timothée et a dit « Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises ». Ce n'est pas simplement pour répéter des mots, mais pour leur rappeler la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit témoignée par une vie de foi croyant en la parole de Dieu. Ne pensez pas en dehors de la foi du Père spirituel. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous, mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai, non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur. 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 18 à 21. L'expression « ne pensez pas en dehors du cœur du Père spirituel » ne signifie pas suivre une personne de manière absolue, mais elle signifie comprendre le cœur et la direction de la foi du leader spirituel à qui l'Évangile est confié et qui établit les saints, et d'être ensemble en son sein. Dans la Bible, l'apôtre Paul a exhorté les saints qu'il avait établis en prêchant l'évangile avec le cœur d'un père spirituel. Il dit dans 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 14 à 15, « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés, puisque c'est moi qui vous ai engendrés en Jésus-Christ par l'évangile. » Paul ne parlait pas de lui-même comme d'un leader doté de pouvoir, mais s'exprimer comme un père spirituel qui a engendré les saints par l'évangile. Cela montre qu'il n'a pas l'intention de dominer sur les saints, mais l'intention d'établir leurs âmes. Si l'on pense en dehors de la foi du père spirituel, sa foi peut facilement s'orienter dans une direction égocentrique. Parce que les gens sont enclins à juger selon leurs propres pensées ou sentiments, ils s'écartent toujours du centre de l'évangile de l'eau et de l'esprit, ou créent des conflits au sein de l'Église. Cependant, parce que le cœur qu'a un leader spirituel est une œuvre de service centrée sur la volonté de Dieu et le bénéfice de la prédication de l'Évangile, plutôt que sur des objectifs personnels, une foi qui se tient ensemble est nécessaire. De plus, le cœur d'un père spirituel est un cœur pour sauver et établir les âmes des saints. L'apôtre Paul a toujours eu le même cœur envers les saints. Il considérait la prédication de l'Évangile et la croissance des saints dans la foi comme plus importante que ses propres droits ou son honneur. Ainsi, il exhortait parfois, réprimandait parfois et priait parfois pour les saints avec des larmes. Ce cœur même est le cœur d'un père spirituel. Par conséquent, l'expression « ne pensez pas en dehors du cœur du père spirituel » a les significations suivantes. Premièrement, cela signifie avoir une attitude consistant à essayer de comprendre le cœur du leader à qui est confié l'évangile de l'eau et de l'esprit et qui établit l'Église. Deuxièmement, cela signifie regarder ensemble dans la direction où l'évangile de l'eau et de l'esprit est prêché, plutôt que de juger selon ses propres pensées et sentiments. Troisièmement, cela signifie penser d'abord au bénéfice de la communauté plutôt qu'à des objectifs personnels lorsque l'on fait l'œuvre de Dieu au sein de l'Église. Cependant, tout cela doit toujours s'accomplir au sein de la parole de Dieu. Un véritable père spirituel est une personne qui guide les gens à se tenir ensemble par la foi au sein de la parole de Dieu et de l'Évangile, plutôt que de leur dire de le suivre. Et lorsque les saints comprennent ce cœur et s'unissent, l'Église de Dieu est établie dans l'unité et non dans la division. En fin de compte, l'expression de ne pas penser en dehors du cœur du Père spirituel peut être considérée comme une exhortation à nourrir ensemble une seule pensée centrée sur l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et sur la volonté de Dieu. Enfin, Paul s'adresse à ceux qui ébranlaient l'Église avec arrogance. La puissance mentionnée ici n'est pas une éloquence fluide, du charisme ou des expériences mystiques. C'est la puissance de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est-à-dire que cela signifie suivre l'ordre de l'Église parce qu'ils sont devenus ceux qui croient au Seigneur comme leur Sauveur, qui a reçu le transfert des péchés du monde par le baptême que Jésus a reçu de Jean, a subi le jugement du péché sur la croix et est ressuscité des morts. La parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit était en fait la puissance qui libère les gens des péchés du monde. Ainsi, Paul exhorte à faire un choix. « Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur. » Ce n'est pas une menace, mais une invitation à la restauration. C'est un appel pour eux à retourner à la place de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Première épître, aux Corinthiens 4, nous demande aujourd'hui « Vous offrez-vous vraiment à Dieu comme quelqu'un qui croit en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, ou vivez-vous comme un dirigeant plutôt que comme un dispensateur à qui l'Évangile est confié ?» Un sermon de Paul Sijong, première épître, aux Corinthiens chapitre 4. Bien-aimés saints, aujourd'hui, à travers les paroles de première épître, aux Corinthiens 4, nous allons examiner quel genre de personne est un véritable serviteur de Dieu par la révélation de la parole de Dieu. Cette parole montre clairement avec quelle perspective celui à qui est confié l'Évangile de l'eau et de l'Esprit devrait se regarder lui-même et regarder le monde. Paul déclare d'abord ceci. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Ici, le mot central du mystère est la parole de l'Évangile de Dieu. Il a l'intention de nous dire la parole de l'Évangile du salut que Dieu a révélé le moment venu. Il est dit qu'il se trouve dans la parole de l'Évangile accomplie par Jésus qui a reçu le baptême de Jean, qui a eu les péchés du monde transférés sur lui, qui a subi le jugement du péché sur la croix et qui est ressuscité des morts. Marc chapitre 2 versets 21 à 28, Matthieu chapitre 3 versets 13 à 17, Jean chapitre 19 versets 18 à 37. C'était le mystère de l'Évangile confié à Paul. Et Paul parle ensuite d'un critère très important. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ici, la fidélité ne signifie pas seulement le zèle ou la sincérité. C'est la foi de celui qui a l'intention de prêcher la parole de l'Évangile confiée par Dieu exactement telle qu'elle est, sans l'altérer. Cela signifie que ceux qui ne changent pas la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit pour satisfaire les goûts des gens, mais qui en témoignent exactement comme elle est écrite dans la parole de la Bible, sont les fidèles devant Dieu. Paul dit aussi ceci, « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. » Pourquoi Paul ne craignait-il pas l'évaluation des gens? C'est parce que sa norme ne dépendait pas des gens et qu'il avait fixé son cœur uniquement sur Dieu. Le serviteur de Dieu à qui est confié l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et qui a l'intention de le prêcher au monde entier ne vit pas avec son cœur lié au désir d'être reconnu par les gens ou à l'évaluation des gens. Parce que la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit n'est pas un message pour satisfaire les exigences charnelles des gens, mais l'Évangile pour sauver du péché ceux que Dieu appelle. Paul va plus loin et dit « Je ne me juge pas non plus moi-même ». Cela ne signifie pas qu'il s'ignore lui-même. C'est reconnaître que même la conscience humaine ou l'auto-évaluation ne peut pas être une norme parfaite. Il dit donc en conclusion, « Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Celui à qui est confiée la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit doit devenir une personne qui garde cet Évangile avec un cœur fidèle et une foi uniquement devant Dieu. » Maintenant, Paul révèle plus directement le problème de l'Église de Corinthe. Il pensait qu'ils étaient déjà rassasiés, riches et qu'ils régnaient comme des rois. Cela signifie qu'ils avaient atteint un état spirituellement très grave, parce qu'ils pensaient que leur foi était déjà devenue parfaite. S'ils ne prenaient pas conscience avec précision de la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit comme la révélation de la parole de Dieu, ils dériveraient vers deux choix extrêmes. L'un est d'être constamment lié par la conscience du péché et l'autre est de devenir suffisant et arrogant. Cependant, une personne qui connaît la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit comme la parole de la révélation de Dieu est différente, parce qu'il croit au fait que son salut a été entièrement accompli par Jésus, qui a reçu les péchés du monde transférés sur lui en étant baptisé par Jean, qui a reçu toute la punition et le jugement pour ses péchés sur la croix, puis qui est ressuscité des morts, il peut être joyeusement fidèle à l'œuvre de Dieu. Il ne peut pas être arrogant devant Dieu et en même temps, il ne peut pas être lié par ses propres péchés. Il vit seulement dans l'assurance du salut en remerciant l'amour du Seigneur. Paul parle en prenant sa propre vie comme exemple. Il dit que bien que nous soyons ceux qui croient en Christ, nous sommes faibles dans le monde et avons été considérés comme les balayures de toutes choses jusqu'à maintenant. Ce n'est pas une déclaration exagérée. Lorsqu'on prêche la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit au monde, aux yeux des gens du monde, nous ressemblons à des insensés et semblons parfois même être des sots. Parce que lorsqu'ils nous regardent avec les pensées des gens du monde, nous ressemblons à ceux qui sont difficiles à aimer. Bien-aimés, si celui qui prêche la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit de Dieu est quelqu'un qui ne recherche que le confort et la reconnaissance, peut-on dire qu'il est fidèle devant Dieu ? Parce que l'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas un message qui élève les gens, mais un évangile qui élève uniquement le ministère de salut accompli par Jésus-Christ. Tout en disant cela, Paul s'adresse à l'église de Corinthe en ces termes. « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. » C'est exactement l'attitude que doit avoir un véritable évangéliste de l'Évangile. L'évangéliste de l'Évangile n'est pas quelqu'un qui condamne les gens avec la parole de Dieu, mais quelqu'un qui prêche la parole d'exhortation pour la restauration avec amour. Paul dit de lui-même « Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile ». Le possesseur d'une telle foi est un évangéliste très fidèle. Ceux qui entendent la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et grandissent sous la direction d'un tel évangéliste peuvent naître de nouveau par cette parole de l'Évangile. Ici, le genre d'Évangile qu'il prêche devient le facteur décisif. Si la parole de l'Évangile est incomplète, ceux qui entendent cette parole de l'Évangile sont inévitablement voués à devenir eux aussi incomplets. Cependant, si une personne croit en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, c'est-à-dire en Jésus qui a reçu les péchés du monde transférés sur lui, par le ministère de son baptême par Jean, qui a versé son sang et est mort sur la croix, et qui a été ressuscité des morts, cette personne commence sa vie de foi dans un état où l'effacement des péchés a été accompli dès le tout début. Par conséquent, Paul dit « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs ». Cela ne signifie pas de suivre Paul en tant qu'individu, mais c'est une parole leur disant de devenir ceux qui croient selon la parole de l'Évangile que j'ai prêché. La vie de foi montrée par Paul était une vie de foi reposant sur la parole de l'Évangile. Il n'était pas une personne qui voulait être reconnue par les gens, mais une personne qui voulait être reconnue devant Dieu. Enfin, Paul déclare ceci, « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Cette puissance n'est pas une foi qui parle de miracles ou d'expériences émotionnelles. C'est la puissance qui enseigne la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, qui transforme les pécheurs en personnes justes. Cela signifie vivre avec la foi qui croit au fait que le Seigneur qui a reçu les péchés du monde transférés sur lui par le baptême qu'il a reçu de Jean et qui a achevé le jugement de ses péchés sur la croix est le maître de cet évangile de l'eau et de l'esprit. Bien-aimés saints, 1 Épître aux Corinthiens 4 nous le dit clairement. Nous sommes ceux à qui est confiée la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et cet évangile ne vient pas de l'homme, mais c'est la parole secrète de l'évangile de Dieu. Par conséquent, nous ne devons pas être ébranlés par l'évaluation des gens, mais vivre comme ceux qui témoignent fidèlement de cette parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit devant Dieu. Votre foi est-elle peut-être ébranlée par le regard des gens? Vous tenez-vous peut-être sur un autre évangile qui n'est pas la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit? Si tel est le cas, vous devez retourner à nouveau à la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. En recevant le baptême de Jean, Jésus a reçu tous vos péchés transférés sur lui, a pris ses péchés et a subi le jugement du péché sur la croix, et en ressuscitant des morts, il a maintenant accompli notre salut. Cette parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est exactement la parole secrète de l'Évangile que Dieu nous a confiée. Celui qui vit en s'attachant à cette parole de l'Évangile par la foi n'échoue jamais. Au-delà de l'évaluation des gens, il se tiendra avec une foi audacieuse devant Dieu. J'espère que la puissance de cette parole, de l'évangile de l'eau et de l'esprit, se manifestera dans les cœurs de tous en tant que personnes qui ont été sauvées. Alléluia.